c'est le temps de la table ronde qui, du coup, fait intervenir des acteurs qui ont déjà été évoqués. Il y a un fil conducteur aussi avec Radio Éphémère. C'est aussi, ça légitime aussi beaucoup de choses, puisque peu ou prou, les quatre personnes qui sont là ont fait partie de cette aventure. Voilà. Et en fait, on va avoir en fond un diaporama qui est plus ciblé sur l'esprit punk, véritablement. L'autre était plus historique sur la globalité de Radio Éphémère depuis 35 ans. Alors, les présentations, si besoin est, vomi. Voilà. Alors, vomi. Producteur de l'émission Vomi Froid sur Radio Éphémère depuis les
35
débuts.
Ans.
35 ans. Plasticien iconoclaste et fondateur du collectif Bombage. Hein, ça aussi, c'est important. Une impertinence, une provocation, nos limites. Il n'est pas tout seul dans l'émission. Il y a Rognon, mais qui fait partie du groupe qu'on verra après. Éditeur de fanzines, de bulletins internes, notamment le putain de tract, dont vous verrez justement des couvertures, participation aussi à BAO Productions, la Benne à Ordures, et collaboration avec les NGA, les Nouvelles Galeries Atomium. Voilà. Michel Fantuse. Ah oui, oui, bon. Michel, musicien iconoclaste et polycasquette, hein, animateur de radio aussi, suivi des concerts de Radio Éphémère dans la belle période des concerts punk. On en évoquera peut-être certains. Hervé du Bikini, qu'on peut applaudir. Voilà. Voilà, la salle, le Bikini, quand même, qui a permis de développer une scène à Toulouse sur plusieurs registres musicaux. Mais bon, aujourd'hui, on parle du punk, donc il nous dira un petit peu ses impressions. Et puis Antoine Madrigal dit Tatane. Et oui, qui était sur Canal Sud et puis qui est venu faire une émission à Radio Éphémère qui s'appelait 19, qui évidemment est le fondateur éditeur du fanzine 19, d'ailleurs, et tu es également auteur d'un livre qui s'appelle « Mouvement ibérique de libération, mémoire de rebelles » et l'anthologie, du fanzine 19. Voilà. Bon, là, c'est vrai que vous êtes connu, repéré. On a déjà évoqué un petit peu, voilà, un peu la bande là, avec Eric Théris qui était E.T., un des fondateurs aussi de tout ce mouvement graphique et qui n'est plus là parce que voilà, tout le monde, même toute génération confondue, il y a des absents. On évoquait Michel Thoron ce matin. Bon, peut-on identifier une scène toulousaine? Ça a déjà été évoqué un petit peu, vous nous donnerez votre sentiment. La question, c'était peut-être par rapport à votre parcours personnel, quel lien vous faites avec ce mouvement punk qui aujourd'hui est évoqué? Alors, on commence par qui? Allez, Hervé. Comment tu
non,
t'es
moi, quelque chose qui est bizarre,
affaire.
Parce que j'ai peur de me faire interpeller, j'ai peur de me faire agresser.
Mais non, ça questionne.
On parle sérieusement. D'abord, je n'ai pas grand-chose à dire dans ce genre de débat, si ce n'est que moi, la musique, je la vis complètement différente. C'est de la passion. Je fais ça depuis le début parce que je ne suis pas musicien et que je suis frustré, donc je fais passer les orchestres à ma place et j'ai l'impression d'en tirer quelque chose. Ensuite, j'ai eu la grande chance, ce que vous appelez, vous, le mouvement punk. Moi, je l'appellerais différemment avec mes mots. J'appellerais ça les alternatifs qui ont commencé vraiment avec dans le sud avec OTH, dans le nord avec Beru, avec leurs enfants, avec les garçons bouchers. Bon, c'est quelque chose de beaucoup plus que j'ai eu la chance de vivre déjà. Et avec beaucoup de passion, avec beaucoup de joie. Les Manu Chao, etc. Puis ça partait de partout. Il faut vous dire un truc, quand j'ai démarré le Bikini en 83, des salles de concert, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. Moi, je voulais faire venir des groupes, mais il n'y avait rien qui tournait. Premier groupe que je fais, j'ai la chance de faire en 83, c'est Alan Vega, donc je crois que je suis d'entrée dans le vif du sujet, et puis après tout s'est enchaîné, et puis on a eu la chance quelques années après de s'apercevoir qu'il valait mieux être à plusieurs pour faire des choses qui étaient un petit peu risquées, parce que je pense que ce qu'on s'est tapé quand on a fait en 85 Rock Against Vergla, ou avec Tatan, avec le CAM, avec qui j'oublie, Éphémère et moi, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Chacun proposait les groupes qui l'excitaient mais qui n'osait pas faire tout seul. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir au TH, qu'on a commencé à voir les Tux, qu'on a commencé à voir quelques groupes parisiens, que des groupes comme Dal Wall 7 ont commencé à faire des échanges avec des groupes parisiens, etc., etc. Et que, petit à petit, on s'est aperçu qu'il fallait des salles. Moi, j'étais un petit peu à part dans cette histoire-là, puisque je suis un privé, je suis un commerçant. Mais dans toutes les autres villes de France, c'était des assos qui faisaient des MJC. Il a commencé à avoir une régularité de groupe, donc il a fallu avoir une salle, on est allé taper à la porte des mairies, et petit à petit, grâce à ces groupes alternatifs, c'est rigolo, on est arrivé à voir le maillage qu'on a à l'heure actuelle en France. Voilà, je n'aime pas trop philosopher sur la musique, je la vis plus que je n'en parle, puis il y a tellement de souvenirs, tellement de choses, c'est pratiquement impossible de vous raconter ça en quelques instants.
Ouais, mais ce que tu disais là, justement, on est allé taper à la porte des mairies, et c'est quand même une spécificité toulousaine qui fait que, à un certain moment, bon, on l'a dit, ça a pété parce qu'il y avait d'une part une origine de certains individus à Toulouse qui étaient dans l'action et la revendication, mais aussi parce qu'il y avait du côté municipal une inaction
qui m'allait très bien pendant des années.
Oui, qui t'allait très bien en tant que commerçant, mais enfin, ensuite, quand tu as eu des problèmes à cause d'AZF, ça a été plus dur de retrouver une salle sur Toulouse. Et quand même, tu as eu une aide.
À qui ? Non, mais c'est pas, non, mais parlons pas toujours de lui. Ouais.
Non, bon, on ne parle pas de toi. Bien, ouais. C'est toujours le problème à Toulouse, c'était qu'il y avait une incompréhension et une inaction, pour ne pas dire des bâtons dans les roues, pour trouver des salles pour faire des concerts. Ouais. Bon, il y a toujours eu quelques bars. Le problème est toujours actuel aussi. Les bars ouvrent, les bars ferment.
Non, bah, les bars qu'on a fait chier pendant des années parce qu'il fallait les aseptiser, parce que si, parce que là.
Il y avait les normes, il y avait le bruit, il y avait les voisins, tout ça. Mais...
Ouais. Hein et... Après, voilà. Ça parle de politique, voilà. Quand même, n'oubliez pas une chose. La seule fois qu'on a un maire socialiste à Toulouse, on a le métronome qui est pondu en quelques mois, tu vois, après, j'exagère un peu, mais alors que après, c'est des études de faisabilité
mais
qu'on
qui a récupéré. Oui, oui.
Vomi, du coup, tu es le mec du Nord, hein, t'es le mec du Nord dans cette histoire qui arrive à Toulouse.
Tu veux que je te fasse
avec ton
Nord.
Histoire quand même de mec de Calais, où oui, tu bon, as eu un contact privilégié déjà avec la punk anglaise.
Voilà, je suis arrivé justement à Toulouse, mais avec un passé ou un passif qui venait
des vieux déjà,
les deux, qui venait de ma situation locale puisque j'étais à Calais. Et Calais à l'époque, on en parlait, c'était pas encore le dernier port vers l'Angleterre, c'était plutôt le premier port vers l'Angleterre. Donc c'était la porte ouverte au passage des groupes. J'ai pas senti comme souvent on dit Rouen, Le Havre, ça a été la connexion en tant que port parce que c'était l'Angleterre. Bon, à Calais, il n'y a pas eu vraiment des concerts qui se sont faits dans la première ville du continent. Mais surtout, la situation géographique faisait qu'on pouvait choper les radios anglaises et notamment les radios pirates. Bon, c'était Radio Caroline qui a eu plusieurs noms, mais enfin, en gros, c'était l'histoire de Radio Caroline qui passait quand même des trucs qu'on n'entendait pas sur les radios françaises, même pas encore sur les radios anglaises. Bon, c'était dans les années, fin des années 70, enfin 60-70, donc c'était pas encore le punk, mais ça m'a montré qu'il y avait une ouverture possible, qu'il y avait autre chose qui existait, qu'il y avait des gens, c'est un peu ce que disait Marc Perry de Sniffing Glue. Il y a des gens, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui pensaient comme moi, qui écoutaient, qui appréciaient le même genre de musique que moi. Et donc ça a été un peu le révélateur sur, après, quand il y a eu l'éclosion du punk, qui a été après institutionnalisé sur la BBC grâce au célèbre John Peel, qui est, bon, en fait, la BBC lui a permis d'obtenir une fréquence, ils ont créé une radio pour monter un peu une opposition à ces radios pirates qui bouffaient des auditeurs à la BBC. Donc il a eu presque totale liberté dans un service public de balancer les pistoles. Et il a été, bon, il recevait c'était un peu comme l'esprit d'éphémère aussi.
Et oui, raconte-nous du coup.
À une autre dimension. Mais...
Raconte-nous ton émission à Radio Éphémère, un petit peu l'ambiance, le ton et les thèmes.
Bon, bah,
c'est parlant pour ceux qui connaissent, oui, mais pour ceux,
bon.
Voilà.
Moi, tu veux que je refasse le.
Non, un petit peu, quoi. Donner une idée, qu'est-ce que non, c'est bon, une émission de radio.
L'idée,
quand même,
c'est que voilà, je suis arrivé à Toulouse en me disant merde, je vais plus pouvoir écouter ce genre de fréquence, ce genre d'émission. Donc, j'étais sur une CTU, on a essayé de monter une radio, c'est cassé la gueule, pour les émetteurs, c'était trop cher. Et puis là, je découvre Radio Éphémère qui émettait du Regalty, ce genre de musique que j'aimais aussi, ce genre de ton totalement décalé. Là, je suis allé les voir et puis bon, c'est un peu comme ce que je disais, quoi. On se retrouve dans un état d'esprit, on trouve des gens qui pensent la même chose que nous, qui vivent de la même façon que nous. Bon, on n'allait pas dire qu'ils s'habillent de la même façon que nous, mais on s'est retrouvés là-dedans grâce... c'est comme ça qu'on a créé Bombage. C'était mettre à disposition du public les images du rock et de la BD. Enfin, la BD qui était aussi alternative à l'époque, mais...
Et les fanzines, c'était les
médias, il n'y a rien qui retranscrit ce qu'on aime. Sur les murs, il ne se passe rien de ce qu'on voudrait y voir. Donc, ce que disait Géo Biafra, c'est ne haïssez pas les médias, devenez les médias. Voilà. Donc on a pris des bombes de peinture, on a bombé sur les murs, on a fait des fanzines, on a fait des émissions de radio. Bon, et pour... Si tu veux que je parle de Vomi Froid, c'est une émission qui est évidemment... punk dans le ton. Qu'est-ce que ça veut dire une radio punk, une émission punk? C'est pas seulement une émission où on passe des disques punk, ça ce serait facile à l'époque actuelle, il suffit de bidouiller un peu sur le net et puis vous avez 1000 heures d'émission avec des musiques punk. Là ça reste dans le ton, c'est-à-dire qu'on aborde des sujets, on aborde des polémiques qui peuvent être régionales ou mondiales. On fait le con aussi, on a toujours cette liberté de ton qui fait qu'on a toujours du Larsen à l'antenne, on a toujours une platine qui démarre pas, on a toujours un disque 33 qui part en 45 tours.
Vous avez testé les pâtés pour chiens et les cols diverses et variées.
On a une autre période punk un peu révolutionnaire où on a testé la colle à rustine. Enfin bon, et, je ne veux pas dire des conneries de jeunes, parce que c'était un peu la façon dont on vivait, quoi. C'était une façon d'être, et on était dans le même esprit, je vous dis, avec les groupes, avec les magasins de disques, avec les concerts, même si on était frustrés, pour rester dans l'identité toulousaine, on était frustrés au niveau des concerts, hein, ça a été, je parle avant le bikini, bien sûr, hein, Toulouse, c'était mort au niveau des concerts de 79 à 82. Quoi.
Et là, je vais interpeller Antoine Madrigal, dit Tatane, pour un petit peu le ressenti, une réaction à tout ce qui s'est dit en amont et maintenant, et un petit peu la résonance politique de ce mouvement à Toulouse, et aussi tout ce que toi, tu as mis en place avec le fanzine 19.
C'est-à-dire que moi, par rapport au punk, j'allais au concert. J'allais voir les concerts à Bordeaux, à Montpellier ou à Toulouse quand il y en a eu. Mais je ne m'intéressais pas à ça. Disons, philosophiquement, ça me plaisait, le do-it-yourself, tout ce truc de culture et tout ça m'intéressait. Mais les groupes eux-mêmes ne m'intéressaient pas parce que je trouve qu'ils ont pris des slogans qui pouvaient sentir le soufre, ils ont appropriés de la lettre et ça a donné des choses qui n'étaient pas très belles. Et j'étais plutôt... Quand il y avait les concerts, dans ce que disait Pierre-Jean, de ne pas vouloir payer les concerts, non pas pour rentrer gratuit, mais parce que ça correspondait à une philosophie de la vie, etc.
Je l'ai fait aussi pour les Pink Floyd et autres concerts. Oui.
Voilà, après, mais par contre, il faut dire que les gens qui voulaient rentrer sans payer au concert ont organisé début 81 un festival pendant 2 jours, avec des concerts, il y avait Little Bob, La Soirée des Glingués, après je ne sais plus les autres, et les affiches avaient été faites par le manager de Classics.
Voilà, il y avait...
C'est-à-dire qu'il y avait des connexions. Maintenant, avec le recul, on a l'impression qu'il y a des fossés, mais alors qu'en fait, c'était beaucoup plus mélangé que ça.
Oui, il y avait une porosité avec les différents acteurs. Et j'ai envie de t'interroger, parce que dans l'après-midi, tu parleras davantage de ton activité autour du fanzine 19, mais ton activité de disquaire, parce que le disquaire, dans toute cette histoire, c'est un passeur, et c'est un lieu aussi qui est référent et qui compte.
Il y a deux choses différentes. Il y a Moi, j'ai monté le magasin Armadillo avec Benoît Binet quand on a arrêté 19 parce qu'il fallait se trouver une raison, un moyen de manger. Donc au départ, l'idée simple, c'était uniquement pour trouver à manger. Comme on avait une culture musicale, on avait beaucoup de contacts et tout ça.
Et beaucoup de vinyles.
On a continué de la lancer. Après, je crois que par rapport au disquaire, ils ont joué un rôle important. Par exemple, si sur Toulouse, il n'y a pas eu de scène punk, alors qu'il y en a eu à Rouen, et au Havre, c'était pas tellement parce que Rouen et le Havre étaient branchés sur Londres, c'est parce qu'il y avait deux magasins. Au Havre, il y avait le magasin de Philippe Garnier. Et à Rouen, il y avait le magasin de Mélodie Massacre, qui était le magasin d'Hermanie. C'est-à-dire que même s'ils ne vendaient pas que des disques punk, parce que ça, c'est pas vrai, ça permettait un lieu de rencontre. Mmh. Et sur Toulouse, ce lieu n'y était pas. Enfin, il y avait un lieu qui était Musique Action, mais c'était plus branché sur le rock sudiste, le blues rock, etc. Mmh. Mais ils vendaient des disques punk parce que les gens qui s'intéressaient au punk sur Toulouse allaient les acheter en import à Musique Action, mais c'était pas un lieu de. Il a fallu attendre 3 ou 4 ans après avec Atomium, qui lui était beaucoup plus post-punk et new wave que punk.
Ouais. Et donc toi tu as vu évoluer la matière de la discographie punk avec les supports différents, le vinyle, les CD. Et juste une petite question, aujourd'hui dans ton magasin, quelle est la part de ce stock-là, de ce fonds-là?
On vend les trois quarts. Nous, on a toujours vendu, depuis qu'on a ouvert le magasin 88, on a toujours vendu du vinyle. Sauf qu'effectivement, dans les années 90, les gens qui achetaient du vinyle, c'était que les amateurs. Donc très pointus, c'est-à-dire le garage, le punk, les disques 60s, et tout ce qui était un peu grand public ou les groupes qui sortaient, ils n'existaient pas en vinyle. Et comme nous, on ne voulait pas travailler avec les majors, on ne les avait pas. Voilà, c'est ça, je crois que c'est le premier truc-là. Maintenant, il y a un changement, c'est avec le renouveau, soi-disant, du vinyle. Les gens se mettent à acheter du vinyle, mais pour les amateurs, ils continuent à les acheter, donc il n'y a pas de problème. Et ce qu'il y a, c'est que c'est le grand public qui se met à acheter du vinyle, mais c'est Supertramp, Dire Straits, Genesis et compagnie. Quoi.
Ah oui, d'accord.
C'est surtout des disques d'occasion.
Michel, tu n'es pas encore intervenu. Peut-être réagir à ce qui s'est dit et évoquer peut-être les organisations de concerts historiques où il a fallu gérer cette vibration punk, nos limites.
En fait, ce qui était vraiment punk chez nous, enfin, moi, c'était pas vraiment la musique, parce que je faisais pas cette musique-là, on était nombreux à pas la faire, c'était plutôt qu'on était quand même des branleurs. C'est-à-dire qu'on ne savait rien faire, et on l'a fait quand même. Au départ, les premiers concerts, on n'avait aucune idée de ce que ça allait être.
Pas dire qu'on était des branleurs.
Non, pas des branleurs, mais on
ne savait pas. T'avais envie de le faire.
On savait, mais puis surtout, on disait, oh, on pourrait faire tel groupe. On arrivait à la radio, on disait, on veut faire tel groupe. Tout le monde dit oui, même personne ne le connaissait. On dit oui, on allait voir Hervé, on veut faire tel groupe, oui. Et 15 jours après, on était en train de coller les affiches, on amenait les groupes au resto, et puis, on faisait le service d'ordre.
Oui,
le service. Ça, c'était quand même.
Et le matos.
Oui, on faisait tout, quoi.
Voilà.
Et ça, et puis le fait qu'on mélangeait quand même tout, hein. Dire, du punk, il y en avait, mais on a toujours mélangé tout. Et même dans les mêmes concerts, des fois, on se retrouvait avec des punkasses pur et dur, avec un truc électro complètement froid à côté. Enfin, bon, on a toujours tout mélangé. Et le public était comme ça aussi, un peu mélangé. Et puis, on se traînait quand même un public un peu remuant, effectivement. Mais on était un peu les seuls. On était les seuls à faire ces concerts-là. Donc, ils savaient que si on n'arrivait pas à les gérer... il n'y aurait plus de concert. Ce qui fait que je me rappelle très bien de Valérie, donc, qui était une
compagne de Pilou,
est encore moins grande que moi, et qui allait dans la salle voir les grands crétus et leur dit « Attendez, là, il faudrait descendre un peu. » Ah oui, madame. Et ça se calmait comme ça. C'était quand même très rigolo. Quoi.
Hervé, les premiers groupes punk que tu as accueillis, au départ, tu y croyais...
Alan Vega.
Et ouais.
Et une nouvelle définition.
Attends, Alan Vega... Ouais. Pardon, mais est-ce qu'on fait de l'anecdote ou est-ce qu'on fait...
Oui, aussi.
Alan Vega, c'est très simple. J'étais fan de Biba Blue, pour moi, qui est la meilleure reprise qui a été faite. Par. Et juste avant de monter sur scène, une main pleine de gélules, comme ça, un coup d'armagnac, un coup de cognac. Le pauvre Biba Blue, il n'arrivait pas à l'articuler. Il bavait de partout, c'était quelque chose de terrible. Et après... Le concert, il y avait Sud Radio à l'époque, bien sûr, parce qu'encore, ils existaient, et puis de temps en temps, ils représentaient quelque chose. Ils voulaient l'amener à l'Ubu, tout ça, il a dit « Oh, je pars with my friend ». Et on est parti à la ripaille toute la nuit à refaire le monde. Et frais comme un gardon, après le concert, nickel. Là, je crois que c'est vraiment le premier truc. Le groupe, c'était de la merde, c'était une horreur, ils n'arrivaient pas à jouer.
Et les Bérus, puisque...
Oh là, les Bérus, c'est la grande claque. Là, je crois que... D'abord, la grande claque, ça a été avec l'autisme d'OTH. Où ça a été des gens à qui on avait prévu, mais on était ensemble sur ces concerts. Hein. On avait prévu un restaurant, on avait tout prévu. Quand on parle de comportement, là, il y avait vraiment un comportement, il faisait peur. au lieu d'arriver de par derrière, ils arrivent de par le public, ils montent sur scène, pas de balance, ils accordent et ça démarre. Et là, voilà, la première fois qu'on voit au TH. Beru, pareil, la première fois, Beru, c'est un copain à moi qui taguait partout Beru au bikini sur les murs, qui s'était fait choper par les flics. Bon, enfin, ça, c'est des histoires qui n'en finissent plus. Premier concert de Beru, je devais faire payer la, la caisse parce qu'après, il y avait une soirée, etc. Je suis resté avec ma caisse et je suis resté stupide et complètement attiré par cette musique. C'était cette boîte à rythme primaire parce que c'est le premier Beru où ce n'était pas avec tous les artifices qu'on a eu par la suite. C'était vraiment primaire, cette boîte à rythme. Et puis c'est un truc nouveau. Puis des paroles, des actes, c'était... Ça, c'est la claque, c'est une des plus grandes claques que j'ai pris. Et après, si on veut faire dans le punk, dans le vrai punk, là, vraiment, avec toute l'intelligentsia, c'est Exploited au bikini, où ça a été quelque chose de terrible, ça, c'est clair que là, c'est pas un concert comme les autres.
Ouais, ça a marqué.
Les autres, c'était un mouvement. Exploited, c'est tout ce qui restait encore comme un vrai punk de l'époque, qui a atterri au bikini, puisqu'il n'y avait que deux concerts en France, les Lézards Montmartre, toutes les vitres pétées dans tout le coin, et le bikini, le lendemain, où je faisais pas le malin, le flic arrive en début de journée sur le parking, ils ont compris tout de suite, ils sont repartis, et voilà, et terminé. Et ça s'est bien passé, ça s'est bien passé.
Et jusqu'à hier au soir, où au bikini, il y avait Ludwig von 88.
Non, ça c'est le punk puéril, c'est pas pareil. C'est
pas... T'es en c'est matinée pas... d'ailleurs, 7h30 pour les petits.
Bon, donc cette scène punk à Toulouse, bon, elle s'est organisée avec...
Classics, on parle.
Et Classics, quand même, ouais.
Pas assez, qui pour moi était vraiment le premier vrai groupe punk toulousain.
On a fait un carnaval avec un camion et Classic X sur le plateau qui restait dans les annales. Après, le carnaval a été annulé, bien sûr, mais il est revenu ensuite. C'est ça, hein, Classic X, c'était sur le camion, quoi. C'était la fête de la musique. Ah oui, c'était la fête de la musique, oui. Première fête de la musique à Toulouse, on était sur le camion, puis après il y a eu carnaval, on a fait plein de trucs comme ça. Oui,
c'est
oui.
Quand on dit une attitude, parce que lui, il n'a pas terminé maître de conférence ou n'importe quoi, le chanteur.
Donc sur les groupes à retenir à Toulouse, bon, tu évoquais Classé X, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui pourraient être...
Dawell 7.
Mets le micro.
Alors, Dawell 7, punk ou pas punk? La querelle de clocher,
c'est lequel est punk? Il y a Kurt ici, il y a eu plein de groupes, après, qui s'écoutaient après, il y a tellement, on peut légitimer des fausses. Les Bêtes, c'est pas du punk, les Bêtes?
Ah si, dans l'esprit, c'est tout à fait punk. Non, le problème à Toulouse,
c'est des Fulbert aussi.
Il n'y a pas de groupe qui ont percé, enfin qui ont continué, c'est pas l'histoire de faire du fric, mais qui ont continué dans le business, quoi. Il y a plein de groupes qui se sont mélangés les uns les autres, qui se sont montés, redémontés, changés de nom, changés le bassiste, je te pique le guitariste. Mais au final, il n'y a pas eu. Bon.
Et Caméra Silence.
C'est Bordelais, ça. Bordelais.
C'est Bordelais, oui. Oui, Caméra Silence.
Bordelais.
Oui, mais c'est Bordeaux.
C'est Bordelais, oui.
Et ça, tout le monde disait quelque chose tout à l'heure, c'est impressionnant parce qu'à cette époque-là, vraiment les années 85, je dirais. La date. Il y avait une pléiade de café, ça jouait de partout, il y avait des groupes de partout. Et c'est marrant qu'il n'y ait pas un groupe qui soit arrivé vraiment à émerger de tout ce magma. On ne comprend pas, quelqu'un le demandait tout à l'heure, si ce n'est qu'on a eu Tomé la chemise quelques temps après, et puis et Claude Sicre, et voilà, et Macumba, ça s'est vite fait le tour. Hein. Maintenant, on a quelques groupes qui arrivent, qui commencent à sortir. Pourquoi ? Parce que je crois qu'à Toulouse, ça restait trop toulousain. On avait beaucoup de mal à exporter le groupe. Dawell 7 l'a fait. J'avais dit, c'est le seul avec Osweiss, Schroller, tout ça.
Les Ablettes aussi.
Ouais, les Ablettes, c'est de Fumel. Bon,
oui, c'est pas vrai quand même, Fumel. Non. Et après, ça pose la question de la porosité de la scène toulousaine et des échanges qui ont eu lieu avec d'autres scènes. La scène bordelaise, bon, deux métropoles un petit peu... un petit peu opposé. Et Michel, je pense que tu pourrais évoquer les liens avec l'Espagne et le Portugal et les radios.
Il parlait de Rocco Casverga, donc qui a été une des premières fois où on a fait les concerts ensemble. Donc il y avait tout le monde. Il y avait 19, il y avait le CAM, il y avait. Et à cette époque-là, avec Dupont, qui doit être quelque part.
C'est Rock Against the Verglas, hein, c'est ça.
Ouais, on avait des connexions donc avec les pays d'Europe, en particulier l'Espagne avec Radio Pica sur Barcelone, avec des gens du Portugal, un peu avec l'Italie, et on avait fait venir des groupes espagnols. On en a fait un paquet. On en a fait des très bons. Hein. On a fait un concert de Loquillo, qui était, et on en a fait des très mauvais aussi. Pendant longtemps, Hervé nous a reproché de lui avoir amené le groupe le plus minable qu'il ait jamais eu, le plus mauvais concert de tout.
J'ai fait Garou depuis.
Voilà.
Est-ce qu'on a le temps de proposer des questions dans la salle, un petit peu? Rogal.
Montpellier, on était jaloux, Montpellier, il y avait, c'était...
L'écho des Garrigues à Montpellier. Ah, il faut recommencer, parce que les gens n'ont pas entendu, oui. Voilà, Pierre, vas-y.
Oui, pour ceux qui n'ont pas entendu, donc Montpellier, qui a, au début des années 80, qui a été une scène très forte pour nous avec OTH, et la radio qui s'appelait Radio L'écho des Garrigues, qui était radio associative comme nous, qui était dans la Ferra Rock, par la suite, mais qui existe toujours, j'espère, ouais. Voilà. Et il y avait beaucoup d'échanges avec Montpellier. Voilà. Il y a eu les provisoires aussi, au milieu des années 80 aussi, qui étaient un shérif. Groupe très fort.
Ah, mais voilà. C'est après, ça c'est les enfants. C'est comme quand on parle de Washington Redcats, quand on parle
des autres, là, de
Ludwig. C'est les enfants, comme les satellites, tout ça.
Seconde génération.
C'est encore un peu après. Les premiers, les pionniers, pour moi, vraiment, hein, je le dis, je le redirai jamais assez, c'est OTH, c'est les Berrues, dans le nord de Berrues, dans le sud OTH, et François qui est arrivé un peu avec ce garçon boucher. Après, il y avait les indépendants, la souris déglinguée. Il y avait les One Pass qui étaient un peu à part. Les Tux, Oberkampf.
Ouais.
Oberkampf, c'est presque 90 quand ça atterrit dans nos salles. Ouais, un peu après, je dis des bêtises.
Bon, de toute manière, on voit bien qu'il y a une question qui va être récurrente sur cette journée, c'est pourquoi n'a pas existé une véritable scène toulousaine avec des groupes qui auraient fait la différence à Toulouse, en fait.
Vous êtes méchant quand on dit qu'il n'y a pas eu de scène.
Il y a eu une scène.
Ce qu'on a fait, on l'a fait. Hein.
Oui, mais tu disais tout à l'heure, je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu des groupes.
Il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas d'autres musiques.
Il n'y avait pas des groupes punk, mais il y avait toute une scène rock'n'roll sur Toulouse.
Les
groupes qui se revendiquaient des racines 60s. Et là, dans les années 80, il y en a eu beaucoup.
Voilà, d'accord. Bon,
il y a eu les Rosemary's Babies après qui ont pris la suite de ça, hein, et qui ont été un groupe qui à un moment donné a un peu tourné, quoi.
Mais c'est 90 aussi.
Eh bien, il y a deux. Oui, autre non, chose à rajouter,
pas,
peut-être.
Pas une conclusion, mais simplement,
oui, c'est
que
vas-y.
Toulouse n'a pas réussi à faire la jonction entre les pétards et les guitares.
C'est une excellente conclusion. Et alors là, on va vous proposer une petite chose en sortie de salle. Alors, l'intro, c'est vous les avez ratés sur le quai du métro Rennery et sur la scène du premier bikini. Vous aviez tout faux et eux aussi. Never mind the bolos, here's the Sex Pistols. Merci beaucoup.